Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce que nous avons entrepris la semaine passée. Nous avions une méditation, nous étions sur un texte de l'Évangile de Marc, et j'aimerais donner une suite, puisqu'il s'agit d'un message d'édification de notre foi, de construction de notre foi. Alors, on va reprendre le même texte, si vous voulez bien, et puis j'en ajouterai un second qui est similaire, mais avec une petite nuance que j'aimerais relever ce matin avec vous. Alors, il s'agit de l'Évangile de Marc, au chapitre 6, et au verset 45, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. » Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, il leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Une seconde lecture dans l'Évangile, toujours l'Évangile de Marc, et au chapitre 4, verset 35, c'est un texte parallèle. Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Je voudrais simplement souligner dans ce texte ce que nous venons de lire. Le vent cessa et il y eut un grand calme. La semaine passée, nous nous sommes intéressés et nous allons poursuivre aujourd'hui sur cette grâce et ce nom de Dieu que nous trouvons exprimé dans la Bible, non pas dans les termes que je vais simplement rappeler ce matin, mais dans l'attitude, dans le comportement du chrétien, c'est-à-dire le repos de la foi ou le repos tout simplement dans la foi. Qu'est-ce que le repos de la foi? Alors, je vais faire un petit rappel, bref, et puis nous allons poursuivre l'étude que nous avons arrêtée donc la semaine passée, en toute simplicité. Jésus nous parle de l'année de grâce. C'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 4. Il nous est dit qu'il est venu pour nous apporter, pour apporter aux hommes, à l'humanité, une année de grâce. Alors, cette année de grâce, elle se perpétue depuis plus de 2000 ans maintenant. Et cette année de grâce, par le fait même de ces dispositions de l'Évangile, et puis ce que nous acceptons, ce que nous recevons nous-mêmes, nous offre, nous l'avons dit la semaine dernière, d'abord le repos de la conscience. C'est-à-dire, vous l'avez compris, le pardon des péchés. Il y a dans cette année de grâce, naturellement, eh bien, le repos dans la grâce. Je me repose dans ce que Jésus a accompli pour moi à Golgotha. Nous avions parlé également du repos de la gloire, c'est-à-dire la perspective que nous avons les uns et les autres, qu'un jour nous serons éternellement avec le Seigneur dans sa gloire. Et puis, il y a ce que nous allons détailler, encore approfondir aujourd'hui, c'est-à-dire le repos dans la foi ou le repos de la foi. Et c'est quelque chose de, me semble-t-il, très important pour notre équilibre, notre vie spirituelle, et comme nous l'avons entendu prophétiquement ce matin, eh bien, pour recevoir les victoires, nous approprier plutôt les victoires que Dieu nous réserve. Le rappel de l'exhortation de la semaine dernière se basait aussi sur ce texte, je rappelle simplement dans Hébreux. Il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu, car celui qui rentre ou qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Il y a là, quelque part, eh bien, un paradoxe, parce que nous devons faire des efforts et nous sommes pour rentrer dans le repos. Et puis, dans le psaume 116, nous avions conclu la semaine dernière sur celui-ci, où le psalmiste dit ceci, « J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. » Ce qui veut dire, c'est qu'à partir du moment où nous avons bien compris l'appel de Dieu, que nous sommes venus à lui repentis, convertis, et puis que nous sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous étions auparavant sans lui malheureux, il nous a sauvés, et maintenant l'Esprit nous dit, non seulement de nous maintenir dans ce repos, mais peut-être s'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui auraient peut-être perdu de vue de cela, eh bien le psalmiste souligne, retourne à ton repos, mon âme. Et ça, je pense que c'est important de le signifier. Nous avions parlé la semaine dernière également que Jean l'apôtre se repose sur le sein de Jésus, sur la poitrine de Jésus, parce que c'est un homme de paix. Et le repos, c'est une éducation, ça s'apprend. Dans un monde de tumulte, dans un monde enfiévré, je dirais peut-être, si vous me passez l'expression, mais endiablé, ça s'apprend, ça s'acquiert. Et nous voyons que ce phénomène qui nous est présenté, enfin, ce miracle qui nous est présenté des disciples dans la barque, sur ce lac tourmenté, eh bien, ils avaient besoin de sortir de cette effervescence du texte précédent, vous l'avez remarqué avec moi, cette effervescence des disciples engendrée par la multiplication des pains. Ils étaient devant un prodige, et là, ils étaient tout excités, et je peux vous dire qu'ils ont perdu rapidement leur excitation pour être conduits, finalement, à une autre dimension de communion et de repos avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons lu qu'il les obligea à monter dans la barque. Ça n'a pas été leur choix. S'ils avaient su ce qui allait leur arriver, ils ne seraient certainement pas montés dans cette embarcation. Mais Jésus les obligea. C'est-à-dire qu'il a voulu, par cette injonction, les soustraire de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, il y a un enthousiasme qui est saint, qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit, mais il y a un enthousiasme, une effervescence, une fièvre, qui n'a rien à voir avec le repos de la foi et le repos en Dieu. Il faut faire la différence, hein. Il y a un caractère psychique chez l'homme et il y a aussi une dimension spirituelle. Là où nous sommes invités ce matin, c'est d'opter pour, non pas une pseudo-spiritualité, mais véritablement pour ce que Jésus nous propose dans ce repos de l'Esprit, dans ce repos de Dieu. Vivre l'épreuve dans la tempête sans Jésus. Parce que lui n'y est pas monté. Il n'est pas monté dans la barque. J'ai lu le deuxième texte pour une autre raison. Mais dans le cas qui nous intéresse, dans Marc 6, Jésus n'y est pas monté. Il les obligea à passer avant lui, c'est-à-dire sans lui. Et lui, il est resté sur la terre. C'est un abandon apparent. C'est vrai que quelquefois, nous avons le sentiment que les choses, ne se passent pas comme nous aimerions qu'elles se passent et nous nous sentons si seuls, solitaires, abandonnés. Mais ce n'est qu'un abandon apparent. Jésus monte sur la montagne, il regarde, il observe, il sonde ses disciples qui sont en train de s'avancer et de pénétrer sur le lac et dans la nuit. Et Jésus va faire une chose, c'est qu'il va intercéder pour eux dans la tourmente à leur insu. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit sur ces petites pistes de réflexion. Alors le soir tombe sur le lac et c'est les mauvais jours. à tel point que nous trouvons dans le psaume 107, puisque nous avons lu cette partie-là, que, eh bien, ils vont en avoir la nausée. Et quelquefois, nous sommes aussi dans ce ressenti de nausée. Nous sommes tellement ballottés de droite et de gauche dans les épreuves, les afflictions, les difficultés, c'est que nous en avons, eh bien là, parfois du dégoût même de la vie. C'est le psaume 107 qui nous le rappelle. Être au milieu de la mer, loin de tout rivage, ou pouvoir se raccrocher, alors que les vents sont contraires, nous dit la parole, et que ces vents contraires sont voulus, pleinement voulus par Dieu, dans un but de miséricorde, dans un but de grâce également, parce que c'est souvent dans les épreuves et les difficultés qu'on apprend les plus grandes leçons de la vie et les plus grandes leçons spirituelles. Je passe aussi sur cette question. Jésus voit la peine de ses disciples, puisque nous avons lu ensemble, je le rappelle, qu'ils avaient beaucoup de peine. Imaginez-vous, des hommes chevronnés, des hommes qui étaient aguerris à toutes les expériences finalement de leur travail sur le lac, mais ils avaient beaucoup de peine. Et nous voyons que, et nous remarquons qu'il y a là une tendre compassion de Jésus qu'il va offrir aux naufragiés et il va leur apporter ce véritable repos dont ils ont besoin et ils vont le connaître, et bien là, dans le tumulte. Et ce repos-là, c'est encore une autre dimension d'un repos de Dieu, c'est le repos dans son amour. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette question. Peut-être, disons-nous, comme Israël, et peut-être quelqu'un dit ce matin, à travers des moments difficiles qu'il traverse, « Le Seigneur m'oublie ». Vous reconnaîtrez le texte, ça vient d'Ésaïe. « Le Seigneur m'oublie ». Mais la femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Et Dieu va répondre. « Quand elle l'oublierait, eh bien moi, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. » C'est une parole de réconfort, c'est une parole qui est là pour construire aussi notre foi, ce savoir aimé de Dieu dans ce repos de l'amour en Dieu. Et il ne faut jamais l'oublier. Alors on va prendre la suite du récit maintenant. On va aller un peu plus loin. Au verset 48, il nous est dit, « À la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. » La quatrième veille, c'est-à-dire de 3 à 6 heures du matin. Vous dormiez peut-être encore. Certainement, je suppose. Une veille considérée comme 3 heures. Donc, ils ont passé la première veille, la deuxième, la troisième, et Jésus n'est intervenu qu'à la fin de la quatrième veille. Imaginez-vous, ça va peut-être rappeler quelques souvenirs de nuits d'angoisse à certains. Parce que c'est au petit matin que quelquefois on trouve le repos, le sommeil et la paix. De 6 heures le soir à 6 heures du matin, ce sont les veilles de la nuit dont la Bible nous parle. Et c'est long, et c'est obscur, c'est sombre, c'est quelquefois très inquiétant. Alors nous allons nous imaginer ces disciples qui sont épuisés, qui sont complètement là, à bout de force, aux prises, avec ces angoisses mortelles, c'est-à-dire le sentiment et la réalité de vivre un cauchemar. C'est quelque chose de terrible. Le cauchemar de ceux qui savent qu'ils vont périr. Et après avoir été au bout finalement de leur démarche, qu'est-ce qu'il leur reste en disant maintenant nous allons mourir? Après cette lutte, après ce combat, après cette dualité contre finalement les éléments et puis tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors ça c'est un cauchemar. Peut-être vous vous souviendrez, moi je me souviens d'une certaine nuit qui a été la plus terrible de ma vie, je peux le dire, une nuit d'angoisse, une nuit terrible. Mais on se sent seul et solitaire, mais j'ai fait cette expérience que à quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, il y avait quelqu'un qui priait pour moi sans savoir dans quel état j'étais, par le Saint-Esprit. Et quelques semaines après, alors que je connaissais bien cette personne, m'a dit telle nuit, eh bien voilà, il s'est passé ceci et cela. Et c'est quelquefois le sentiment que l'on a entre la vie et la mort. Mais peut-être le sentiment que Jésus est absent, mais il n'est jamais absent. La preuve, parce que je suis encore avec vous aujourd'hui. Et ça, c'est une consolation et c'est quelque chose de formidable. C'est des nuits qu'on n'oubliera jamais, ça. Parce qu'on peut être sur le lac, dans la tourmente, dans toutes sortes de choses. Mais quelles leçons nous apprenons ? Après coup, naturellement, parce que quand on le vit, c'est vraiment très amer et c'est très, très difficile. Alors, ça, c'est l'amertume de l'épreuve. L'amertume, le cauchemar que nous vivons. Alors, Paul décrit ses douloureuses impressions dans 2 Corinthiens, au chapitre 7. Quand il dit ceci, et le pauvre, il a dû certainement en voir de toutes les couleurs, il dira ceci, en noir et en blanc, hein, naturellement, quand je parle de toutes les couleurs, j'enlève, mais en noir et en blanc, et il dira ceci, « Notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au dedans, quand tout s'en mêle dans notre vie. » Et vous savez, l'épreuve et la difficulté, les situations, les vents contraires, il n'y a pas qu'une chose qui arrive, mais il y a souvent une succession de choses. Hein, on peut dire que c'est terrible de vivre cela, parce que tout s'en mêle. Alors le vent et l'ouragan autour de ces hommes, et puis ils avaient aussi la frayeur et l'effroi à l'intérieur, c'est-à-dire au-dedans, au fond de leur cœur, et Paul a raison quand il dit « mais lutte au-dehors et crainte au-dedans ». Quand vous entendez le vent mugir, quand vous entendez toutes ces choses qui sont autour de vous, c'est terrible. Alors on veut parler d'une folle nuit d'agitation pour les disciples dans ces circonstances, mais pourquoi ? Parce que la nature humaine est ainsi faite, parce que le meilleur des disciples, le meilleur des enfants de Dieu, des croyants, reste un homme, avec ses forces propres, avec sa volonté, avec sa suffisance, et vous comprendrez que Jésus va leur dire, il va leur faire entendre en tous les cas, avec aussi sa peine, sa difficulté à croire, à faire confiance, on pourrait peut-être l'appeler son incrédulité. Quelle dualité, hein, lorsque nous avons tellement besoin de Dieu que nous n'arrivons plus à croire. Que nous sommes face à un défi gigantesque, colossal, et que là, à ce moment-là, nous aimerions peut-être être dans nos meilleurs jours que nous avons connus par le passé, et de dire nous aurions tellement besoin d'utiliser eh bien, cette force et cette sérénité que nous n'avons pas à ce moment-là. Parce que nous sommes des hommes, et n'allez pas vous faire des illusions, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes que des hommes avec nos fragilités, avec notre vulnérabilité, avec tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui peut nous saisir et nous prendre à la gorge, tout ce qui peut nous angoisser. D'ailleurs, le mot angoisse vient du grec angoussia, qui veut dire rétrécissement, serrement à la gorge. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu le phénomène de l'angoisse, c'est pas drôle, hein. C'est terrible parce que ça vous prend ici. C'est terrible. Alors, Jésus leur dira simplement... Je dirais que ce n'est peut-être pas tant un reproche que peut-être aussi un geste de compassion pour les aider à croire. Quand il dit rien, mais comment n'avez-vous pas de foi ? Dans le deuxième texte de Marc, il est dit, mais pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi vous avez peur ? Vous pourriez me donner une raison pourquoi vous avez peur de temps en temps ? C'est dur, hein ? C'est difficile à dire, hein ? Pourquoi nous avons peur ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Tant que cela... n'a pas été consumé, tant qu'il y a quelque chose qui n'a pas été détruit en nous, tant que l'œuvre de la crucifixion eh bien, n'a pas été faite, que ça n'a pas été englouti sous les flots, parce qu'il y avait quelque chose qui devait mourir, ce n'était pas les hommes qui devaient aller au fond de l'eau, mais c'était quelque chose qui était en eux, qui devait être submergé, une forme de baptême. Heureusement qu'il y a moins de vagues les jours de baptême, hein. Mais il y a quelque chose qui doit être englouti de toute manière. Pour arriver à ce repos profond de l'âme et de l'esprit. Et si cela n'est pas fait, ça ne sera qu'une fugitive espérance et non la réalité bienfaisante du repos de l'esprit, du repos de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Eh oui, pourquoi n'avez-vous pas de foi ? Pourquoi avez-vous eu peur ? La peur, c'est notre ennemi. On l'a détaillé il y a quelques semaines. Ça, c'est notre ennemi, exploité par l'ennemi pour nous faire couler, pour nous engloutir. Alors, Dieu envoie ses enfants dans la tempête. Mais Seigneur, comment tu as pu permettre que ses disciples soient dans la tempête ? Comment as-tu pu permettre qu'un homme qui était juste et intègre, qui s'appelle Job, comment as-tu pu permettre qu'il vive tout ce qu'il a vécu ? C'est une perplexité pour nous, hein. Et n'oublions jamais pourtant que Dieu, vous savez ce que je vais vous dire maintenant ? Que Dieu nous aime. Oui. C'est paradoxal ça. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il nous aime ? Eh bien permet-il telle et telle chose ? Je reste convaincu que c'est pour le meilleur que Dieu nous précipite dans les vagues. Oui. Il y a des vagues à un moment ou à un autre. Hein. Quelquefois, nous les agitons nous-mêmes. Hein? Mais parfois, eh bien, c'est un petit peu étrange que ce qui nous arrive. Son but, c'est de nous amener à abandonner nos misérables appuis et consolations humains pour nous faire don du précieux et inestimable repos en lui. Sa paix en lui, la paix de Dieu, la paix en Christ, la paix de l'Esprit, la paix dans notre conscience, le repos dans notre conscience, le repos dans nos pensées. C'est tout un programme. David nous dit ceci dans le psaume 23, parce que ça reste mémorable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me fait reposer, dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, repos, la paix. Il restaure mon âme. Il y a trop d'enfants de Dieu, trop de chrétiens qui sont agités en permanence et qui prennent ça pour une agitation spirituelle et qui n'en est pas une. Alors, David a raison. Parce que le psaume 23, c'est quand même le poème du repos et de la paix en Dieu. Mais sur la mer, en furie, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire quand tout bouge autour de nous? Si quelques-uns ont connu ce que sont les vertiges, c'est pas drôle, hein? Vous pouvez fermer les yeux, vous voyez encore tout bouger. Alors, que faire? Se débattre? Erreur. Lutter, c'est une erreur. S'épuiser, c'est la conséquence. Comment Dieu n'est-il pas intervenu à la première veille? Et comment n'est-il pas intervenu non plus pour stopper la tempête à son début, avant que l'épreuve de ses disciples atteigne son paroxysme? Et vous remarquerez avec moi, Jésus n'est intervenu que quand c'était au paroxysme. Dieu en a le pouvoir, alors pourquoi le permet-il? Pourquoi permet-il quelquefois une dégradation de situation? Une santé qui, finalement, eh bien, disparaît de plus en plus pour arriver peut-être aux portes de la mort? Nous l'avons vu. Ouais. À la quatrième veille de la nuit, nous rapporte Marc. Seulement à la quatrième. Tout ce temps, c'est un temps de tourment et d'obscurité morale et spirituelle. Et avec un épuisement physique, naturellement, ça va avec. Mais c'est terrible, une chose pareille. Mais les choses sont ainsi. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Que veut-il nous apprendre? Eh bien, il va nous apprendre une grande leçon ce matin que j'aimerais rappeler. Et quand on se pose la question, mais que faire? Eh bien, vous allez voir que c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, la réponse. Précisément, Dieu attend que nous cessions de faire. Que nous cessions de faire, en d'autres termes, ça veut dire de vous abandonner. Que nous comprenions que le principe de la foi, c'est un abandon. C'est pas de lutter, de remuer ciel et terre et de faire de la poussière autour de nous. C'est pas cela. C'est le contraire, précisément. Et l'expérience de la vie va vous l'apprendre. Peut-être que les jeunes ne le savent pas, ils vont l'apprendre dans la vie, même dans des domaines indifférents à de l'existence. Mais on l'apprend, ça, à un moment ou à un autre. Lorsque nous cessons de faire nous-mêmes, alors à ce moment-là, Dieu agit. Dieu fait. Et Dieu nous attend. Et Dieu nous attend que nous arrêtions de gesticuler, de bouger, d'essayer tous les moyens envers et contre tout, puisqu'il nous a donné sa parole et elle doit nous conditionner quelque part à rester dans le calme et dans le repos. Il y a deux méthodes. Ou bien nous allons devant peut-être quelqu'un, un exemple que je prends, comment fait-on pour sauver un homme qui se noie? Quelqu'un qui ne sait pas nager, qu'est-ce que vous pensez un peu de la chose? Alors il y a deux méthodes. Ou bien nous allons le frapper de façon à ce qu'il soit dans un état d'inconscience et le retirer sur le rivage, un bon coup derrière la tête, et puis là il ne va plus bouger. Maintenant vous allez peut-être le ramener vivant, mais vous allez le mettre dans le coma pendant des heures et des jours à l'hôpital, parce que vous l'aurez tapé tellement fort. Alors ça peut être ça. Ou alors vous allez le laisser se débattre et crier jusqu'à ce que ses forces soient épuisées avant de pouvoir lui porter secours, parce qu'il ne se laisse pas porter. Il ne se laisse pas emportés pour être sauvés. Toute tentative de le sauver, tant qu'il lui reste quelque force, dans sa terreur, dans sa frayeur, dans ses peurs, eh bien il s'agrippera désespérément et mettra sa vie et celle de son sauveteur en péril. Alors il y a des gestes, hein. Moi je ne connais pas les techniques de sauvetage en eau douce ou en mer, mais toujours est-il qu'il y a des gestes pour arriver à maîtriser quelqu'un qui est dans la panique de se noyer, et une façon de faire, naturellement. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est terrible, parce que c'est les deux. Et vous avez appris ce drame il y a à peu près un mois, un homme qui a voulu porter secours à un garçon, à un adolescent, ils se sont noyés tous les deux, hein. Terrible. Dieu attend que nos réserves de force, force propre, soient complètement épuisées avant de pouvoir nous délivrer et d'intervenir. Alors les disciples sont sur la mer, ils s'épuisent, ils font tous leurs efforts, ils savent, ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire se sauver du naufrage comme des marins pourraient le faire, désespérément. Dès que nous renonçons à faire quelque chose, que nous nous tenons tranquilles, que nous demeurons en repos, alors permettez-moi de vous le dire, ce matin, c'est que Dieu fait tout. Il y a ce texte que j'aime beaucoup, qui me marque encore aujourd'hui et qui me marque toujours, je peux le dire, dans Ésaïe au chapitre 26, simplement le texte. Il est dit ceci, « Éternel, tu nous donnes la paix. » J'entends par là, « Tu nous donnes le repos. » « Éternel, tu nous donnes la paix. » Mais écoutez la suite. « Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Vous trouvez pas ça merveilleux? Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Mais tu peux l'accomplir que dans la mesure où je reste tranquille. Où je reste calme, je reste paisible, je te fais confiance. Le Seigneur attend que nous désespérions de nous-mêmes et de nos moyens, de nos techniques, de tout ce à quoi nous pouvons nous raccrocher. Attendre dans le calme. Le bon conseil de Noémi à Ruth, dans ce merveilleux livre que vous connaissez, le livre de Ruth, il dira à sa belle-fille, à Ruth donc, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Reste tranquille en attendant la suite. Je veux te donner du repos dans la maison d'un mari. » Enfin bon, ça c'est... Mais toujours est-il que c'est dans le même contexte. Oui. Écoutez, reste tranquille, sois tranquille, jusqu'à ce que tu saches comment la chose finira. Mais le Seigneur, lui, sait déjà comment ça va se finir. Et c'est parce que, justement, nous ne le savons pas que nous nous débattons, excusez-moi, j'allais dire, comme des beaux diables. L'expression... D'accord. Tant que nous n'avons pas compris la leçon du repos, la tempête continue à gronder et Jésus ne pourra venir nous secourir qu'à la quatrième veille de la nuit. Vous vous battez pour certaines choses. La conversion de bien-aimé. Vous battez peut-être parce que vous recherchez certains buts à atteindre et que Dieu a mis dans votre cœur, légitimement dans votre cœur. Mais écoutez, laissez faire le Seigneur, abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Et n'attendez pas de vous battre jusqu'à la quatrième veille de la nuit parce que les choses sont déjà prêtes. Mais on en ressort toujours avec un enrichissement, de toute manière. On en ressort avec cet enrichissement que quand on s'est bien battu et quand on est bien épuisé, on n'a plus envie de le faire après. Et c'est vrai. Ne sois pas juste à l'excès de peur que tu ne te détruises. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Ne sois pas juste à l'excès. Ça fait partie de la parole aussi. Quatrième veille de la nuit. Les malheureux disciples dans la barque avaient, nous dit la parole, beaucoup de peine à ramer. La version Darby nous dit, ils se tourmentaient à ramer. Donc ce n'est pas seulement un tourment physique d'effort considérable et inouï, mais c'était aussi certainement associé avec toutes les pensées terribles qui pouvaient, dans l'effort physique, qui pouvaient les accompagner. Ils se tourmentaient à ramer. Quelquefois, on se croit loin du rivage alors qu'on est tout près. On est tout près. Et on continue à se battre alors qu'on est déjà arrivé. Il faut parfois, parce que nos cœurs sont endurcis, c'est marqué, on l'a lu tout à l'heure, à comprendre que Il faut que nous comprenions que nous soyons plongés dans une condition telle qu'il n'y a plus d'espoir possible de nous en sortir. Paul nous en fait le récit au moment de son naufrage, quand il est parti de Césarée jusqu'à la capitale d'Empire, Rome. Il nous dit ceci dans Actes chapitre 27, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes. » Que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Merci Seigneur, parce que c'est là où je touche le but. Quand j'ai perdu tout espoir en moi-même et que je mets tout espoir en toi. Autrement, tant que je me débats, tant que je fais tout ce qui m'est encore possible, eh bien, tu attends que je sois au bout, quelque part. Il le dit, nous perdîmes tout espoir de nous sauver. Mais permettez-moi d'ajouter, je paraphrase, de nous sauver nous-mêmes. Quand le Seigneur nous donne une victoire, ce n'est pas une victoire à partager avec nous-mêmes. C'est une victoire qui le glorifie, lui, mais pas l'homme. Et souvent, ce sont des demi-victoires. Et notre vie, quelquefois, c'est qu'une vie de demi-victoire, c'est dommage. Parce que quand c'est une demi-victoire, on y reviendra toujours. À un moment donné, ce que nous avons laissé pour nous-mêmes, le diable en tirera quelquefois les ficelles et il nous resservira le plat refroidi en son temps. Et on dira, mais ça n'est jamais fini. Laissons Dieu régler les problèmes et vous verrez qu'on n'y reviendra pas. Je fais une remarque. Si la quatrième veille est la plus sombre, la plus obscure, la plus sinistre, cette quatrième veille, celle dans laquelle on désespère, elle est aussi celle qui annonce et qui précède l'aurore. Parce que plus nous allons dans l'avancement de la nuit, plus le soleil va apparaître à l'horizon. On est d'accord? C'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Hein, même quand il y a des nuages. Parce que même quand il y a des nuages, si vous prenez l'avion, vous verrez qu'après avoir percé la couche de nuages, il y a toujours du soleil au-dessus de notre tête. Hein. Toujours. Le soleil brille toujours. Hein. Pas de problème. Alors cette nuit terrible, cette nuit d'angoisse, cette nuit cauchemardesque, eh bien, elle annonce, et je dois pouvoir me souvenir, elle annonce que bientôt elle va prendre fin, et elle annonce un nouveau jour, l'aurore. Parce que le jour se lève. Et la Bible, quand il nous est parlé que le jour se lève d'une manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande et beaucoup plus glorieuse, il nous est parlé de l'étoile brillante du matin. Et elle brille. Hein. Vous ne savez pas qu'elle brille? Elle brille dans votre vie. Dieu l'a préparée. Elle est là, cette étoile. Nous n'avons pas toujours les yeux pour la voir. Enfin, les yeux du cœur, les yeux de la foi. Parce que c'est le prélude d'un jour de délivrance. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. C'est Jésus qui vient. Jésus regarde, Jésus prie, on l'a vu, Jésus voit et Jésus vient. Il ne reste pas inactif dans nos détresses et dans nos souffrances. Dieu met un terme immédiat à l'épreuve dès qu'elle a accompli son rôle. Pourquoi ferait-il durer les choses? Parce qu'il veut nous instruire, parce que nous avons été instruits. Parce que la leçon est acquise, parce que la leçon est comprise, parce qu'elle a été surtout vécue. Un chrétien, ce n'est pas un homme qui se barde de connaissances livresques, intellectuelles et cérébrales. C'est un homme d'expérience. Et les expériences, il n'en manque pas. Il y a des choses que nous ne pourrons saisir que par l'expérience. C'est ce qui faisait la force de l'Église primitive, des hommes du premier siècle et des siècles ensuite. Et c'est ce qui doit faire également la force de l'Église d'aujourd'hui, l'Église chrétienne, l'Église de Jésus-Christ. C'est l'expérience, pas que l'expérience, mais l'expérience compte, naturellement. Heureux le croyant qui pénètre la signification des épreuves et qui cherche à les vivre pour son édification et son avancement. Que veux-tu me dire à travers ceci ou cela, Seigneur? Que veux-tu me dire à travers ma maladie? Que veux-tu me dire à travers ma détresse? Que veux-tu me dire à travers la perte de mon emploi? Que veux-tu me dire à travers mes hauts et mes bas dans peut-être mon âme qui vit des moments difficiles sur le plan affectif et sentimental? Que veux-tu me dire, Seigneur? Parle-moi, dis-moi, réponds-moi, Seigneur. Je veux apprendre. Mais si vous priez comme ça, vous allez voir, vous allez avoir une réponse. Ce n'est pas une formule, la prière, c'est une réalité concrète. Jésus alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Est-ce que vous laissez le Seigneur vous dépasser? Est-ce que vous lui permettez qu'il vous dépasse? Vous voulez toujours avoir raison? Vous voulez toujours avoir le dernier mot? Vous voulez toujours dire, eh bien moi, je sais, Seigneur. Vous savez tout? Je vous conseille d'écouter cette petite chanson, elle est populaire, hein, c'est une chanson, c'est Jean Gabin qui l'a chantée, quand il chante « Je sais ». Et vous comprendrez à la fin de la chanson que quand il dit « Je sais, je sais, je sais, je sais », il dit à la fin « Je ne savais rien ». Mais est-ce qu'il faut arriver à la fin de sa vie pour dire « Je ne savais rien » ? Quand on est jeune, on dit « Je sais ». Et quand on est, cheveux blancs, alors on ne sait plus. On ne sait plus. Comment expliquer que Jésus voulait donc les dépasser ? Probablement, il voulait les dépasser pour les encourager. En marchant devant eux, comme le vainqueur des flots déchaînés, comme celui où ils avaient besoin de plonger leur regard dans ce Seigneur qui était là près d'eux, cette silhouette dans la tempête, pour leur dire « Mais moi, j'ai vaincu la tempête. J'ai vaincu la mer, j'ai vaincu la furie des vagues. Et voilà ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire par la foi. » Par ailleurs, cette marche sur la mer, eh bien le témoignage incontestable que le Fils de Dieu domine les forces de la nature, dont il est le roi, dont il est le maître, dont il est le créateur. En qui avons mis notre espérance? En un demi-dieu? Ou un dieu qui ne serait pas Dieu? Ou est-ce que véritablement nous avons mis notre espérance dans ce Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Tout-Puissant? Alors, que peut arriver aux faibles enfants de Dieu dans ce monde hostile et dangereux, puisque Jésus en est le maître et il marche dessus? Vous savez qu'il marche sur vos épreuves, il marche sur votre maladie, il marche sur vos infirmités, il marche dessus. Il n'y a rien de plus anormal pour un homme de marcher sur l'eau, hein, parce que ce n'est pas notre élément. Quand on marche sur l'eau, il y a un phénomène pesanteur, boum, on coule. C'est logique. Mais lui, il marche sur les épreuves, il marche sur tout cela, la mort, le péché. C'est ce qui fera dire à Paul, une belle expression que vous connaissez, mais si Dieu est pour nous. Mais qui sera contre nous? C'est vrai? Ça va? Vous le croyez ça, hein? Qui sera contre nous puisqu'il marche dessus? Il marche sur le diable. Il l'a roulé. Complètement. Entre le moment où Jésus va vers ses disciples et l'instant où il va prendre pied dans la barque avec eux, parce qu'il va quitter l'élément liquide pour rentrer dans la barque, il va se passer autre chose. C'est ce qui nous est dit au verset 49. « Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. » Ils le voyaient tous. Et en le voyant, ils étaient troublés. Alors que quand on regarde le Seigneur, on est apaisé, on est en repos. Il y a quelque chose là. Ici est démontré l'avantage de la foi sur la vue. La supériorité de la foi spirituelle sur nos faibles sens, sur ce qui nous trompe si souvent, nos yeux, notre vision. Notre vision peut nous trahir. Jamais notre foi, quand elle est authentique et véritable et qu'elle est spirituelle. Je ne parle pas de la foi religieuse, je parle de la foi spirituelle. Quand ils le virent, ils crurent à un fantôme. Vous avez déjà vu des fantômes ? Je vous fais peur peut-être, non ? Eh oui, un fantôme. Si les disciples avaient procédé en sens inverse, c'est-à-dire croire d'abord, ils auraient vu et reconnu Jésus dans le réconfort et la joie. Mais là, comme ils ont fait les choses à l'inverse, eh bien, ils ont vu une vision qui leur a fait peur et qui leur a donné la frayeur qui les a tourmentés. Nous remarquons aussi que c'est quand le secours arrive qu'on y croit le moins. Vous l'avez remarqué? Et moi, je voudrais vous dire que vous êtes peut-être à la frontière d'avoir la délivrance et la guérison ou ceci et cela, et c'est peut-être là où vous êtes le plus accablé. Eh bien, vous vous trompez. Excusez-moi d'insister sur le fait, hein, mais c'est aussi de l'expérience. Et combien de fois nous avons aussi vécu ce genre de choses en disant « Seigneur, c'est perdu !» Et le Seigneur a dit « Mais non, ça commence !» Ou ça recommence, c'est quand Jaïrus est rentré avec Jésus et qu'on lui a dit « Mais ta petite fille est morte !» que Jésus lui a dit « Mais ne crains point, crois seulement !» Et c'est à ce moment-là qu'il a pu voir et serrer dans ses bras cette petite fille qui n'était pas seulement guérie, forcément guérie, mais plus que guérie, ressuscitée. Eh bien, ne perdez pas espoir. Et si vous êtes à deux doigts de la frontière du désespoir, eh bien, sachez que ce n'est pas la frontière du désespoir que vous touchez. C'est la frontière de l'espérance. C'est la frontière de la délivrance et du secours de Dieu. Et le diable est là pour nous dire le contraire. Regardez la méprise des Hébreux quand ils ont voulu rentrer dans le pays de Canaan. Ils se sont trompés lourdement. Parce que finalement, Dieu voulait les faire rentrer. Et au moment où ils ont tellement pleuré pour y rentrer, eux, ils ne le voulaient plus. Et par quoi ? Par incrédulité. Ils se sont laissés manipuler par les esprits de mensonges, par toutes sortes de choses, par leur vue qui les a trompés. Et à ce moment-là, ils se sont dit, on n'y rentre plus. Le Seigneur a dit, vous ne voulez plus rentrer ? Eh bien écoutez, je vous donne un petit prolongement de balade dans le désert. Oui, 2 ans plus 38, ça fait 40. On est d'accord. Et quelquefois, il y a des frères et des sœurs qui tournent en rond pendant je ne sais pas combien de temps. Pourquoi ? Parce que c'est un problème, finalement, d'incrédulité. Nous remarquons aussi que c'est quand le secours arrive, donc je le disais, et Jésus va leur dire, donc gens de peu de foi. Ils crurent que c'était un fantôme. Tenir nos pensées en repos. Eh, ça voltige, hein, quelquefois, dans notre tête, naturellement. Jésus s'est présenté marchant sur la mer afin de les fortifier, de les encourager. Et c'est l'effet contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'ils vont être troublés. Et leur trouble augmente parce qu'ils sont abusés par leur imagination. Qu'est-ce que nous nous imaginons lorsque ça ne va pas dans notre vie ? On s'en imagine des choses. On constate une chose, c'est que les disciples sont encore tout empreints de croyances et de superstitions populaires. Eh oui, j'ose le dire. D'où leur confusion. Attention, nous avons une vie passée et quelquefois elle revient lorsque les choses vont mal. Oui, le diable nous les resserre à un moment donné. Et c'est servi comme ça. Tant que ça va bien, il ne peut pas rien faire, mais à un moment donné, eh bien, parce que ça va mal, parce que nous sommes en fragilité, nous sommes vulnérables, eh bien, il va nous faire ressortir toutes sortes de vieilles choses qui appartenaient à notre vie d'hier. Et on croyait que c'était fini, c'était perdu, mais non. Mais là aussi, ça doit disparaître. Et le Seigneur va nous nettoyer à travers tout cela. Attention à notre imagination. Elle peut nous jouer de très mauvais tours, surtout dans les preuves. Nous déformons le sens. Nous amplifions la réalité. Nous dramatisons, nous dénaturons le naturel en spirituel. Et quelquefois, c'est le contraire qui se passe. C'est le spirituel que nous ramenons au naturel. Alors attention. La leçon serait la suivante, c'est d'acquérir une saine notion du surnaturel. L'équilibre en tout et le contrôle de nos pensées. L'apôtre Paul s'exprime dans Philippiens quand il dit ceci, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et ça, c'est le don que Dieu nous fait naturellement. Le repos, et le repos en Dieu, le repos de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Ils poussèrent des cris et ils étaient troublés. Dans Matthieu, il nous est dit que c'était plus qu'un trouble, c'était de la frayeur. Nos pensées affolées vont nous amener à la peur, parfois à la panique, et là où les flots sont restés impuissants pour submerger les disciples, le danger plus grand les guette, ou un danger les guette, encore un danger plus grand les guette, subtil et intérieur, c'est-à-dire la panique. C'est encore autre chose, c'est une dimension supérieure, la panique, c'est-à-dire la perte du contrôle de soi. Et là, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on est capable de faire des sottises. La peur est un sentiment propre à la nature humaine. Ça fait partie de notre humanité et c'est lié au péché, je veux dire au péché en général. L'homme, quand il a commencé à pécher, la première chose qu'il a éprouvée sentimentalement, émotionnellement, c'est la peur. Et ça nous reste, ça nous garde. La peur intensifie nos difficultés et nous devons apprendre à la dominer au risque de voir l'adversaire l'utiliser contre nous et il ne va pas se gêner. Le seul remède préconisé par l'Écriture est la foi ainsi exprimée dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je finis. Un cœur qui croit est un cœur qui ne redoute rien. Un cœur qui est en repos, eh bien, n'a rien à redouter, parce que Dieu a mis sa paix et son repos à l'intérieur. Une des caractéristiques de la peur, c'est qu'elle est communicative, elle est contagieuse, elle est dévastatrice. Ils étaient tous en train de s'affoler les uns et les autres. Hein. Je ne sais pas combien ils étaient dans la barque, peut-être 12. Mais ils devaient se la communiquer. Quand quelqu'un a peur, il est capable de communiquer la peur. Quand quelqu'un a la foi, il est capable de la communiquer aussi dans l'autre sens. Alors il faut travailler à ce qu'il y ait la foi, naturellement. Hein. Enfin, la situation des disciples est si périlleuse que Jésus va intervenir. Au verset 50, il nous est dit qu'aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi ». N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans les entretiens que je peux avoir avec les uns et les autres, qui quelquefois m'arrivent affolés et troublés, parce que c'est arrivé, hein, c'est humain, je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur. C'est le langage évangélique de Jésus. Hein. Il dit toujours, n'ayez pas peur. Il ne dit pas, t'as raison d'avoir peur. Et c'est bien que tu aies peur, pas du tout. N'ayez pas peur. C'est une simple parole de Jésus qui suffit pour apaiser les éléments déchaînés. Silence, tais-toi, dans la deuxième lecture. Et les cœurs éperdus d'angoisse, quand ils vont entendre « Rassurez-vous, n'ayez pas peur », eh bien, ça exprime les mêmes et toujours les mêmes sentiments de compassion de Dieu à l'égard de notre faiblesse et de notre vulnérabilité, de notre petitesse. Et cela, ça nous rassure, cela nous réconforte, cela nous console, avant qu'ils mettent la main pour notre salut définitif, pour retirer les disciples finalement de l'abîme. Alors ils ramènent la confiance et Jésus travaille par son Saint-Esprit à ramener la confiance, le calme, la tranquillité intérieure. Dans Ésaïe, autre citation, Dieu dit « Ne crains pas, ne crains rien car je suis avec toi ». Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. On voit quelquefois les gens qui sont en angoisse. Ils n'ont pas besoin de dire, ça se voit dans leurs yeux. Ils regardent de tous les côtés, ils sont perdus dans leurs pensées, submergés peut-être par des vagues de leur inquiétude, de leur désarroi, de leur anxiété. Je suis ton Dieu. Jésus dit à ses disciples, c'est moi. Ça veut dire la même chose. C'est moi. Parole merveilleuse qui affirme la permanence de sa présence, même si nous ne le voyons pas. Il est là. C'est moi, je suis. Je suis dans ton intimité, je suis dans ta vie. Ce que le miracle ne peut faire, la multiplication des pains qui avait suscité de l'enthousiasme. La marche miraculeuse de Jésus sur les eaux qui avait suscité de la frayeur par une mauvaise interprétation. Jésus le fait par sa parole de paix. C'est là où il va gagner. C'est là où il va nous gagner par sa parole de paix qui engendre le parfait repos. Nos cœurs ont besoin d'entrer dans ce repos de la foi que procure finalement cette présence de Dieu que je reçois, que je crois. Parce que le plus grand de tous les miracles, c'est la parole du Seigneur au fond de notre cœur. C'est elle qui va générer les actes miraculeux. C'est elle qui va donner les faits miraculeux. Mais c'est la parole, ça commence par la parole. C'est elle qui communique la foi. C'est elle qui va me mener à la paix et au repos. Parce que sa parole, ce sont des promesses. La conclusion dans le psaume 107, je termine. « Il les délivra de leurs angoisses, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Ce port désiré, ce port tant désiré, est sur l'autre rivage. Le rivage de nos souffrances, de nos maladies, le rivage de notre existence, de notre vie. Un autre rivage que nous allons parcourir quelquefois pour l'atteindre avec des larmes, avec des pleurs. Mais il est de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a déjà Jésus qui nous attend. Il est avec nous pour la traverser, il est déjà de l'autre côté, nous le savons. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Ce port où nous demeurerons à jamais, qui sera un havre de paix et de repos, ce sera le repos de la gloire. Alors on se dit, mais pourquoi Seigneur toutes ces tribulations? Bien, on est en train de les préparer finalement, de préparer ce repos dans la gloire. Alors en attendant, il va falloir traverser l'océan de la vie, ces tempêtes, ces vents adverses, ces bourrasques. Mais quoi qu'il en soit, il faut que l'enfant de Dieu, que le croyant apprenne à naviguer dans ce calme intérieur que l'on nomme le repos de la foi. Il peut y avoir la tempête autour de nous, si vous avez le calme à l'intérieur, C'est pas, ça n'a pas d'importance. Je le citais la fois dernière, regardez Paul et Silas, maltraités, flagellés, battus, humiliés, comme on ne peut pas se l'imaginer, ils chantaient des cantiques, ils avaient le repos de la foi à l'intérieur d'eux, la paix de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes, le repos de la foi, le calme intérieur. Vous pouvez en faire un sujet de prière, de dire « Seigneur, donne-moi ce repos de la foi ». Et puis je termine par cette parole. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et le vent, c'est ça, avons-nous lu tout à l'heure. Et il y eut un grand calme. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Et on va demander au Seigneur qu'il nous donne de rentrer dans ce repos de Dieu, ce repos de la foi.